Chapitre 24. Dans le ventre du dragon.
Attends des nouvelles de l'évêque,
demanda Feren Alroeg, comme il s'en revenait d'une promenade à cheval à travers les terres ocres de l'automne. Deux écuyers étaient venus à sa rencontre et tenaient déjà les talons pour permettre au comte de descendre. Derrière eux, le prévôt Alambert accueillit son maître avec un large sourire.
Apparemment, le baptême de Mériande le Bel a été un véritable succès,
affirma-t-il en tendant au comte une canne. La rondeur du comte, avec l'âge, avait fini par lui jouer des tours, et il marchait avec de plus en plus de peine. C'était cependant un homme imposant et charismatique. Sa calvitie et ses yeux noirs lui donnaient un air féroce, et sa voix forte et sévère lui permettait toujours d'avoir le dernier mot. Alroeg était l'un des dirigeants les plus intelligents que l'île ait connus, mais il était aussi l'un des plus désagréables.
« Fort bien !» déclara-t-il en saisissant la canne que lui tendait le prévôt. « Je suis sûr qu'Aeditus réussira à christianiser la plupart des Brunois. Alambert, nous allons pouvoir nous occuper de la Sarre, l'esprit tranquille. »
« Croyez-vous que nous pourrons convertir les Sarrois aussi facilement que les Brunois ?»
demanda le prévôt. Le comte se mit en route pour traverser le petit parc qui les séparait de l'aile nord du palais de Rhia, où il avait ses appartements.
« Ce n'est pas mon souci premier. Je compte y envoyer la flamme, mon bon prévôt. Ce n'est pas la conversion des Sarrois qui m'intéresse pour le moment, et si elle prend plus de temps, ce n'est pas bien grave. Ce qui m'intéresse, c'est leur terre, et le pouvoir politique que me conférerait le contrôle de 3 des 5 territoires de l'île. » Convertir les habitants de Terre Brune était un savant calcul, mais contrairement aux Brunois qui sont braves et souvent rebelles, les Sarrois, eux, n'offriront aucune résistance, et je pourrai annexer leur pays avec une poignée de soldats seulement. Chez eux, la religion sera imposée plus tard, et nous n'aurons pas besoin de prendre les précautions qui s'imposaient en Terre Brune.
« Si la reine nous laisse faire !» intervint Alambert.
Pour l'instant, elle est trop occupée à se prendre pour un druide,
railla le comte en levant sa canne vers son interlocuteur.
Et la jeune Aléa, sait-on ce qu'elle est devenue?
Depuis qu'elle s'est échappée de la prison que je vous paye pour administrer,
s'emporta Alroeg en se tournant vers Alambert.
Reconnaissez, monseigneur, que ce n'était pas une prisonnière ordinaire. Toutes les jeunes filles de son âge ne sont pas capables de faire des trous de la taille d'un ours dans des murs en pierre, par la seule force de leur esprit.
C'est bien pour cette raison que vous auriez dû lui réserver une cellule beaucoup mieux gardée. Mais soit, inutile d'y revenir. J'avais moi-même sous-estimé cette petite peste.
Oui, et nous ne devrions pas faire la même erreur une seconde fois. Elle est peut-être une menace plus grande que la reine. Or, on ne sait plus où elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'était pas avec la petite armée qui se battait en son nom sur la colline de Sablon.
Non, mais nous l'avons écrasée, son armée, comme celle des Toitanes et les druides avec eux. Alors où qu'elle soit aujourd'hui, elle n'a sûrement plus la force de nous résister. De toute façon, je la trouverai bien assez tôt et ce n'est pas ce qui me préoccupe pour le moment. Est-ce que vous avez dit à Dancret de m'attendre dans mon bureau ?
« Bien sûr, monsieur le comte, il est déjà là-haut. »
Feren Alroeg hocha la tête et accéléra le pas. Ils traversèrent le parc tout entier et furent enfin devant le grand palais de Rhia. Quand il arriva dans l'entrée du bâtiment, le comte enleva sa longue veste, la donna à l'un des serviteurs et monta péniblement les grands escaliers de bois qui menaient au premier étage. En haut, un autre domestique lui ouvrit la porte.
« Bonjour, général !»
dit Alroeg en entrant, comme Dancret était déjà installé.
« Bonjour, monsieur le comte !» répondit celui-ci en se levant.
Le général Dancret était devenu le plus proche conseiller du comte depuis la bataille de Sablon. Sa victoire brillante avait été un moment décisif de l'histoire de l'Harcourt, et le comte le tenait en sa plus haute estime depuis lors.
« Comment vont nos troupes, mon cher ?»«
Plutôt bien. Les recruteurs sont débordés. » Nous recevons des demandes par centaines. Les jeunes gens du pays sont pressés d'en découdre avec la Galatie.
Ce n'est pas la Galatie que nous attaquerons en premier,
rétorqua Alroeg en se laissant tomber lourdement sur une large chaise à bras, juste en face du général.
Bien sûr, monsieur le comte. Mais il n'est peut-être pas mauvais que ce soit la motivation première de nos soldats. C'est une fin qui les enthousiasme. Reprendre le contrôle du royaume à la place des arrogants galaciens.
Nous allons d'abord nous concentrer sur la Sarre, général.
Oui, vous m'avez déjà fait part de votre plan,
répondit Dancret en hochant la tête.
Il ne vous plaît guère ? S'étonna le comte en croyant déceler quelque scepticisme dans la voix du général.
Ce n'est pas cela, monsieur le comte. Je crois que votre plan est bon, mais il y a deux choses qui m'inquiètent. Et ce n'est ni la Galatie, ni la Sarre.
La Bisagne ?
Non, même s'il ne faut pas négliger la puissance cachée de leur armée, je sais comme vous qu'ils essaieront de rester neutres aussi longtemps que possible et que dans le pire des cas, ce sont des gens que l'argent peut acheter. L'histoire l'a déjà prouvé.
Alors quoi ? La gamine ?
Le général acquiesça lentement.
Oui. Elle et Mahol Morda, monseigneur.
Vous pensez vraiment qu'après la bataille de Sablon, cet aléa est encore en mesure de nous causer des problèmes ?
Demanda le comte.
Ce jour-là, elle n'était même pas présente, mais ses compagnons avaient levé pour elle une armée de plusieurs milliers d'hommes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et je crois que je n'ai jamais vu pareille dévotion dans les coups d'épée qu'ils portaient, pas même dans ceux de nos loyaux soldats de la flamme.
Le comte grimaça. Cela ne nous a pas empêchés de les écraser.
Demain, après-demain, elle aura monté, si elle le veut, une armée 10 fois plus nombreuse encore, et aussi dévouée. J'entends dans les campagnes et dans les villes les légendes qu'on raconte sur elle. Même en Harcourt, on parle davantage de cette gamine que de n'importe quelle autre figure de l'île. Et vous savez la force des légendes, monsieur le comte. Vous savez combien le peuple peut se déchaîner derrière des personnages comme celui-là.
Alors quoi ? Nous devrions concentrer nos efforts sur cette petite peste ?
S'emporta le comte.
Pour l'instant, on ignore où elle se trouve. Mais nous devrions peut-être éviter de trop nous disperser. Pour être prêt à tout.
Alroeg poussa un long soupir.
Je vois. Et Mahol Morda, vous semblez penser qu'il est une menace tout aussi importante.
Peut-être plus grande encore. Malheureusement, on ne sait rien de lui, ou presque, si ce n'est qu'il fait peur aux druides eux-mêmes et qu'il compte des espions et des serviteurs cachés dans tout le pays.
Y compris chez nous.
Le général Dancret haussa les épaules.
C'est malheureusement fort probable. Pour l'instant, je pense qu'il attend que nos luttes intestines nous affaiblissent les uns et les autres, et ensuite il sortira de l'ombre.
Vous me parlez des dangers, Dancret, mais pas des solutions. Je suis prêt à vous écouter et à vous croire. Mais vous êtes général et stratège, alors dites-moi au moins ce que, selon vous, nous devrions faire.
Nous devons à tout prix éviter le combat contre la Galatie,
répliqua aussitôt le général.
La reine est parvenue à inverser le rapport de force entre Providence et les druides, en déplaçant Saïmina au sein même du palais.
« Tous les grands druides n'ont pas suivi, »
intervint Alroeg.
« Non, mais d'autres grands druides ont été nommés à leur place, si bien que le nouveau conseil, qu'il soit légitime ou non, compte 13 membres, soit bien plus que le précédent. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, le conseil a un chef fort en la personne de la reine qui lui assure une cohésion et donc une efficacité nouvelle. La stratégie d'Amine est redoutable.
Vous pensez que nous ne pourrions pas la battre, c'est cela ?
S'inquiéta Alroeg.
Je n'en sais rien, admit le général. Mais nous nous épuiserions à le faire, et Mahol Morda ou Aléa auraient ensuite le champ libre.
Le comte se frotta le front et s'enfonça dans son grand fauteuil.
Vous avez sans doute raison, reprit-il. Mais cela signifie-t-il que je dois aussi renoncer au comté de Sarre pour économiser nos forces? Cela dérangerait complètement mes plans.
Non, non, monsieur le comte, nous ne devons pas renoncer au comté de Sarre. En espérant que nous y soyons les premiers, cela serait peut-être en effet un atout majeur que de nous en rendre maîtres. Simplement, il faut, si vous le permettez, que nous n'envoyions là-bas que le strict nécessaire. Pas un homme de plus. Nous devons absolument conserver le plus gros de nos forces ici même, pour nous défendre. Et que cela se sache.
Je vois. Mais dans ce cas, Je veux que ce soit vous qui meniez les soldats de la flamme à Tarnéa d'Ancrée. Car si nous envoyons peu d'hommes, qu'au moins ils aient à leur tête un guide habile et aguerri.
C'est trop d'honneur que vous me faites. Je suis à votre service, monsieur le comte.
Mon cher, vous allez de nouveau avoir l'occasion de faire la preuve de votre génie stratégique. Je suis sûr que vous renverserez sans peine ce pantin de Ruade. Le lâche se terre dans son château de Tarnéa depuis bien longtemps. Il ne mérite pas de gouverner la Sarre.
Je partirai demain, monseigneur. Et la semaine prochaine, le comté de Sarre sera vôtre. Ou bien je ne serai plus, moi.
Je prierai pour la première alternative, général.
Les soldats de la Terre, auxquels s'ajoutaient maintenant les derniers Tuatanes, formaient le long de la montagne une grande colonne armée de plus de 500 hommes qui serpentaient entre les blocs rocheux. Le soleil timide parvenait à peine à percer le brouillard, collier gris, au bas de la chaîne de Gordraka. Le groupe s'était résolu à abandonner les rares chevaux, car les animaux n'auraient sans doute pas pu faire la traversée, et de toute façon, comme il n'y en avait pas pour tout le monde, loin de là, ils ne faisaient pas réellement gagner de temps. Il fallut cependant répartir leurs charges matérielles sur quelques porteurs dévoués. Ce matin-là, Aléa était partie devant avec Fingin, Erwan, Tagor, Kaitlin et Mjoln. Les six compagnons avaient passé une bonne partie de la nuit à se demander s'il fallait ou non emprunter le chemin des cavernes. Aléa et le jeune druide, qui les avaient un peu sondés, leur avaient certifié qu'il y avait bien un passage, et même plusieurs, d'un côté à l'autre de la montagne. Mais eux-mêmes ne s'étaient toujours pas montrés très enthousiastes à l'idée de s'aventurer dans ces souterrains de sinistre mémoire. Pourtant, l'urgence, encore, avait fini par l'emporter. Il fallait rejoindre Tarnéa au plus vite, et même Mjoln s'était résolu à tenter l'aventure.
« Voilà donc l'entrée de ces célèbres cavernes !» annonça Aléa en désignant l'ouverture dans la roche.
« Oh, cela ne m'en rappelle pas de bons souvenirs !»
grogna Mjoln. Aléa lui fit un sourire. Elle aussi pensait au souterrain qui les avait menés dans la forêt de Brocélia. Et de tous les compagnons qui étaient descendus dans ce terrible couloir en sa compagnie, seul Mjoln était encore là pour se souvenir avec elle. Félim, Galiad et Feys n'étaient plus. Comme il lui manquait aujourd'hui. Comme leur présence eût été réconfortante.
« Allons-y, » ordonna-t-elle. « Erwan et Tagor, assurez-vous que les hommes restent le plus groupés possible. Nous sommes nombreux, ce qui augmente les chances de nous perdre. »
Les deux jeunes gens acquiescèrent. Ils avaient déjà expliqué le matin même à leurs soldats la méthode à suivre dans ce genre de situation et quelle formation adopter, mais il n'était pas vain en effet de le leur rappeler, maintenant qu'ils allaient entrer dans les dites cavernes. Il ne serait sûrement pas aisé dans un lieu aussi exigu de gérer plus de 500 personnes, dont la plupart étaient certes des soldats, mais certaines aussi des femmes et des enfants du peuple Tuatan, aussi habitués fussent-ils à la vie souterraine. Quand tout le monde fut en place, Aléa et Fingin passèrent devant. Dès le départ, ils prirent un peu d'avance, l'un à côté de l'autre, afin de sécuriser la route. À peine étaient-ils entrés dans l'ouverture de la roche que déjà ils projetèrent devant eux des flots continus de Saïman. Aléa parvenait à voir l'énergie aux teintes rouges qui se dégageaient des mains du druide. La sienne, de couleur bleue, partait beaucoup plus loin dans les méandres de la caverne. À elle deux, les énergies parvenaient presque à dessiner les contours du passage, frôlant les murs, glissant le long des parois. Près d'un soldat sur cinq portait une torche, et cela fit bientôt un gigantesque halo lumineux dans la caverne. Les uns après les autres, ils découvrirent le décor étonnant qu'ils allaient traverser. Les murs immenses étaient parfaitement lisses, découpés en multiples facettes, comme la surface d'un diamant démesuré. La caverne était haute comme 6 ou 7 hommes au moins, ce qui laissait deviner la taille incroyable des créatures qui avaient vécu là. Pour l'instant, il n'y avait rien d'autre autour d'eux que ce couloir cylindrique creusé dans la roche noire, mais sa taille était si impressionnante que tout le monde resta muet pendant un long moment. Les quelques femmes et enfants étaient vers l'avant du convoi, juste après les premières rangées de soldats. Les guerriers du Cid,
habitué à l'obscurité, plus adroit et plus expérimenté, s'était réparti tout autour, comme une escorte gigantesque. Erwan était passé derrière avec les derniers Tuatan, et Tagor à l'avant suivait directement Fingin et Aléa. Quant à Caitlin et Mjoln, ils étaient avec les femmes et les enfants Tuatan. L'actrice semblait d'ailleurs plus émerveillée par ceci que par le spectacle qu'offrait la caverne. Depuis l'arrivée des gens du Cid, elle n'avait pas encore vraiment eu le temps de les découvrir, et marcher parmi eux était l'occasion idéale. Tout comme les hommes, avec leurs crêtes et leurs peintures guerrières, femmes et enfants portaient dans leurs vêtements et leurs coiffures de nombreux signes tribaux. Leurs habits étaient faits d'une fourrure fine qui ne pouvait venir d'aucun animal de la Gaëlia. Sans doute les avaient-ils ramenés du Cid. Le cuir même, sur leurs chausses, sur leurs ceintures et dans leurs cheveux, n'avait pas non plus la couleur de celui qu'on tannait sur l'île. Leur tenue n'était pas très colorée, car à part un peu de rouge et de bleu dans les longues boucles d'oreilles des femmes, on ne voyait que le brun et le fauve de la fourrure et du cuir. Leurs cheveux, attachés dans le dos, étaient décorés de plusieurs tresses fines. Mais c'était l'abondance de leurs bracelets, colliers et pendentifs, y compris sur les enfants, qui étonna surtout Caitlin. Elle était notamment captivée par une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 3 ou 4 ans et qui, réfugiée dans les bras de sa mère, jouait avec les lanières de cuir nouées autour de ses poignets. Les enfants Tuatan étaient sans conteste les plus sages que Caitlin ait vus de toute sa vie. En vérité, ils étaient tout le contraire des enfants cheminants, lesquels passaient leur journée à gambader, chanter, crier, rire et désobéir. Tout comme cette petite fille silencieuse au regard si mûr, les enfants du Cid faisaient preuve d'un calme étonnant. Et dans ces circonstances, c'était sans doute un atout majeur, mais aussi le signe d'une grande tristesse. Ce peuple était habité par une nostalgie qu'aucun habitant de la Gaëlia ne pourrait jamais saisir. Soudain, Caitlin réalisa que le convoi s'était arrêté. Comment, dans une même journée, le baron Alvaro Bizani pouvait-il se vautrer dans la décadence d'une orgie débridée et tout à la fois donner à quelque adolescent des leçons sur l'art de la décenza? Voilà bien l'un des mystères de Bizagne qu'aucun étranger n'aurait su expliquer. Quand le messager vint réveiller le baron dans le grand salon du château de Farfanaro, sur les hauteurs de cette ville de bois, tout prêtait à penser qu'il avait passé une nuit dont les détails scabreux échappaient largement à la décenza enseignée dans les nobles écoles.
« Brrr !» grogna le baron. Oh, « si je continuais de m'abandonner ainsi dans la liqueur de mes amis vignerons, un jour je me réveillerai avec la tête coupée sans savoir pourquoi. »
« Si un jour on vous coupe la tête, cher baron, vous n'aurez plus à vous réveiller. »
L'énorme Alvaro éclata de rire et se laissa retomber sur le grand canapé où il avait plus ou moins fini sa nuit. Il y avait encore de nombreux hommes et de nombreuses femmes endormis tout autour de lui, les uns entièrement nus, les autres débraillés. Sur les meubles et le sol étaient éparpillées des carafes de vin à moitié vides, certaines renversées. Les tapis étaient jonchés de nourriture, de linge, de couvertures et de draps. Les nombreux domestiques du château n'avaient pas encore osé envahir les lieux pour y mettre un peu d'ordre.
« Que veux-tu, petit homme ? »
demanda-t-il au messager en fermant les yeux dans un geste de grande lassitude.
« Vous dire que la reine vient de s'autoproclamer archidruide, qu'elle se fait maintenant appeler Aislinn la druidesse, et que le conseil a été rétabli dans la tour de l'Aurilien, au palais de Providence. »
Le baron releva lentement la tête et haussa un sourcil.
« La druidesse ? La druidesse ?»
ricana-t-il.
« Alors ça y est. Sait-on maintenant quels sont précisément les membres du conseil qui ont osé quitter Saïmina ?»«
Enon, Kalan, Otelian et Tiernan. Plusieurs druides et leurs magistels les ont suivis, une trentaine. »
Le baron éclata de rire de nouveau. Le messager resta silencieux. Sans doute ne saisissait-il pas la drôlerie de la situation. Alvaro se leva péniblement.
« Bien !»
marmonna-t-il en bâillant.
« Il va donc falloir que je parle de ça avec cette bande de plaisantins qui me servent de conseiller. Réunissez toute la clique dans mon office, » demanda-t-il. « Le capitaine Giametta, le bailli Stefano, cette grande folle de Pepo, et la pire de tous, ma fille. »
Ils vous y attendent déjà, baron.
Tant mieux, tant mieux.
Il renifla sans la moindre élégance, puis, grimaçant, partit vers la grande porte du salon. Il traversa le long couloir qui le séparait de son office et entra brusquement dans la pièce. Tous ses conseillers étaient là, en effet, et tous avaient sursauté. Il lâcha un petit rire nerveux, gratta la barbe naissante sur ses joues et partit s'asseoir dans son fauteuil habituel. Comme toutes les pièces du château, et comme la plupart des maisons de Farfanaro, l'office était somptueusement décoré, ou exagérément selon certains. Il n'y avait pas un seul morceau de pierre qui fût visible dans la pièce, car tout était recouvert de bois. Hautes fresques et colonnades le long des murs, au plafond, une voûte à clé pendante, où chaque croisée d'ogive était déjà une œuvre d'art, et le parquet en marqueterie faisait comme un tableau immense. Les meubles, enfin, incrustés de marbre blanc et noir, étaient tous des chefs-d'œuvre de sculpture et de frise.
« Mon père, vous êtes la honte de Bizagne !»
commença la jeune Carla en découvrant la mine du baron.
« Merci, ma fille, » répondit Alvaro en souriant.
« Je fais de mon mieux. »
Carla leva les yeux au plafond en secouant la tête.
« Vous avez appris la nouvelle ?»
demanda Giametta, le capitaine de la garde.
« Je ne serai pas là, » répliqua le baron Bizagni.
« Allez-vous finir, oui ou non, par prendre position dans tout ce qui se passe sur notre île ?»
s'enquit la jeune fille d'un ton exaspéré.
« Je vous rappelle que j'ai envoyé un ambassadeur à la cérémonie où cette paysanne pucelle a si brillamment repoussé au zénith les frontières du grotesque, »
répliqua Bizagni.
« Je ne suis pas si naïf que vous voulez le croire, mon enfant. »
En vérité, le baron était sans doute le moins naïf de tous. Son amour du luxe et son goût immodéré pour la chair ne l'empêchaient pas d'être fin politicien. Mais il était là, fatigué par la bêtise de ses contemporains, par l'orgueil de ses proches et par les luttes absurdes que menaient les autres dirigeants du royaume.
« Pour l'instant, il n'y a rien à faire, » reprit-il. « Je pense qu'ils vont tous se jeter sur la Sarre en espérant que nous resterons neutres, et pour tout vous dire, nous aurions bien tort de nous en priver. »
« Si l'Harcourt ou la Galatie s'emparent vraiment de la Sarre, notre poids politique n'en sera que davantage réduit, »
intervint le bailli, qui était le plus ancien conseiller du baron.
« Le conflit entre l'Harcourt et la Galatie passera loin avant le nôtre, et quand ces deux imbéciles se seront affrontés, ils tiendront à peine debout. Alors peut-être nous pourrons aller jouer les charognards, comme nous avons toujours su si bien le faire, n'est-ce pas ?
Les Bizaniers étaient jadis les meilleurs soldats de l'île, et même de Britia !
S'exclama le capitaine Giametta.
Comme cela devait être ennuyeux, se moqua le baron.
En somme, soupira la fille Bizagni, vous ne voulez rien faire.
Ah, si !
Se défendit le baron tout sourire.
« Nous pourrions organiser une énorme fête pour célébrer la bêtise de nos voisins. »
Le capitaine de la garde se leva brusquement, dépité, et sortit de l'office sans ajouter un mot. Alvaro éclata de rire.
« Mon père, ce pays sera en miettes le jour où vous vous réveillerez de l'interminable ébriété où vous baignez depuis trop longtemps. »
Le baron cessa aussitôt de rire. Il se leva à son tour, se pencha vers sa fille, et cette fois-ci, son regard était terrifiant.
« Écoute, petit morpion, depuis que je dirige cette baronnie, pas un seul homme n'a osé venir m'affronter. Et tu sais pourquoi ? Parce que la véritable force militaire réside dans la menace et qu'il n'y a rien de plus menaçant qu'un pays neutre. J'épargnais déjà à cette terre de nombreuses guerres quand tu n'étais encore qu'une fabrique à linge sale dans les bras de ta défunte mère. » Alors avant de vouloir donner des leçons à l'homme qui a commis l'unique faute de te mettre au monde, coupe tes cheveux, fais-toi passer pour un homme et va au Mont-Tombe te faire enseigner l'histoire. Tu me parles de honte, mais la seule honte que doivent assumer la famille Bizagni, elle est devant moi. C'est ton ignorance misérable. »
Puis il se tourna vers les deux autres.
« Quant à vous, Veulbenet, puisque vraiment l'envie de voyager vous démange, portez à la reine ce message. Le baron vous félicite pour votre clairvoyance et applaudit votre choix de vouloir,
Exercez vos pouvoirs exclusivement pour ce qui vous semblera être le vrai bien. »
Il dévisagea ses deux auditeurs un instant, puis son rictus furieux se transforma de nouveau en sourire. Il fit demi-tour et quitta la pièce en bâillant. Ils marchèrent ainsi de longues heures dans les profondeurs de la montagne. La descente semblait n'en plus finir. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient au cœur de la roche, la caverne paraissait s'élargir et l'obscurité grandissait. Plusieurs torches s'étaient éteintes et celles qui restaient ne suffisaient plus à éclairer les parois du gigantesque passage. Le manque de lumière et l'immensité de l'espace commençaient à devenir oppressants. Les uns et les autres se faisaient de plus en plus silencieux, mais l'écho de chaque geste, de chaque chuchotement, avait pris une ampleur déconcertante.
« Je n'arrive plus à sentir les parois sur les côtés, » murmura Fingin en se penchant vers Aléa.
« Moi non plus, » avoua-t-elle en retour. « L'endroit doit être immense. »
Derrière eux, le silence se fit. Les hommes qui les suivaient avaient probablement entendu leurs paroles. Et cela ne devait pas les rassurer.
« Je devrais peut-être essayer d'éclairer la caverne pour que nous y voyions plus clair, » suggéra Aléa.
« Je sens que l'angoisse de l'obscurité est en train de tous les gagner. »
Fingin acquiesça. La jeune fille rassembla alors toute son énergie autour d'elle. Elle n'aurait pu vraiment expliquer ce qu'elle essayait de faire, et pourtant son instinct la guidait. Elle allait transformer le Saïman en millions de petites particules lumineuses qu'elle enverrait autour d'elle. Quand elle sentit qu'elle avait atteint son niveau maximum de concentration, elle relâcha l'énergie en tendant les bras au-dessus d'elle. Lentement, un rayon de lumière s'échappa de ses bras tendus. D'abord comme un couloir qui s'échappait de ses mains, puis le couloir se transforma en bulle et se mit à emplir l'espace alentour. Les centaines d'hommes et de femmes derrière elle poussèrent soudain des soupirs d'admiration et d'étonnement. Tous levèrent les yeux vers le spectacle incroyable qui se dessinait autour d'eux à mesure que grandissait le rayon de lumière. Ils purent alors admirer l'immensité de la caverne. Sans doute était-il arrivé au cœur même de la montagne. La grotte était démesurée, les parois inaccessibles reculaient à travers l'obscurité. Mais tout autour d'eux, les englobant comme une grande tente, ils découvrirent avec stupéfaction une structure gigantesque. Comme de grands bras voûtés, fins, blancs, pointus, qui se refermaient au-dessus d'eux. Très vite, ils comprirent, non sans un certain malaise, qu'il s'agissait d'ossements. Ils étaient au milieu d'un immense squelette de dragon, enfoncé dans le sol. Les grands arcs ivoiriens semblaient les guider vers la suite du chemin.
« C'est incroyable !» s'extasia Fingin. « Tu te rends compte la taille que devait faire cette bête ?»«
Ouais, difficile de s'imaginer comment Galliad a pu un jour se battre seule contre une de ces créatures !»
répliqua Aléa.
« Elle n'était peut-être pas aussi grosse, » supposa Fingin. « C'était le dernier spécimen, et il n'avait certainement pas la taille de celui-ci. »«
Dire qu'il n'en existe plus un seul ?»«
Oui. » Il est des espèces qui sont ainsi appelées à disparaître.
Aléa tourna la tête vers son amie. Elle sourit. Cette dernière phrase était si lourde de sens. Fingin avait sûrement fait exprès. Elle acquiesça.
Où est le crâne, à ton avis? On l'a passé ou il est à l'autre bout?
Je pense plutôt, vu la courbure du squelette, qu'il est devant nous.
Alors allons-y, proposa Aléa. Tagore, derrière eux, ordonna aux soldats de se remettre en marche. Le grand convoi avança au milieu de ce couloir d'ossements, enjambant les grandes côtes qui quadrillaient le chemin et disparaissaient dans la terre. Bjoln, qui était resté bouche bée pendant de longs instants, se mit à courir pour rattraper Fingin et Aléa à l'avant des troupes. Il arriva essoufflé à côté de ses amis et prit le bras d'Aléa pour accaparer son attention.
« Dis-moi, lanceuse de cailloux !»
Oui. Le nain hésita. Il avait les yeux rivés à la voûte squelettique.
Dis-moi,
répéta-t-il.
Il n'y a pas une légende qui dit que les dragons gardent des trésors?
La jeune fille sourit. Elle aurait pu deviner la question du nain.
Une légende, oui, répondit Aléa. Mais la vérité est souvent très différente des légendes, n'est-ce pas?
Oui, mais tout de même,
grimaça le nain. Nous verrons bien.
Ah, ça oui, nous verrons bien, oui. Très bien, ça brille un trésor.
Le général Dancret tira légèrement sur les rênes pour faire passer son cheval au pas. Les soldats derrière lui l'imitèrent, les uns après les autres, faction par faction. Il galopait depuis le matin et les montures commençaient à montrer des signes de fatigue. Dancret n'avait pris que 3000 hommes avec lui, uniquement des chevaliers, respectant son idée selon laquelle il fallait aller vite et ne pas trop éparpiller les troupes d'Harcourt. Mais à mesure qu'ils avançaient vers la capitale de la Sarre, le général se demandait s'il n'avait tout de même pas été trop optimiste. Les Sarrois n'étaient certes pas une grande menace, mais renverser le pouvoir avec seulement 3000 hommes ne serait pas chose aisée.
« Mon général, je crois qu'une pause ne ferait en effet pas de mal ni aux chevaux ni aux hommes »,
suggéra le capitaine Danil, juste à côté de lui.
« Oui, oui, arrêtons-nous là-bas, en retrait de la route. »
Le capitaine acquiesça et fit passer l'ordre au gradé. Puis il retourna auprès du général.
« À ce rythme-là, nous pouvons espérer arriver à Tarnéa dans 7 ou 8 jours. Mais je ne suis pas sûr que les chevaux tiendront.
Nous ferons une pause plus grande dans 3 jours, dans une ville où l'on pourra s'occuper de nos chevaux. Mais en attendant, je veux soutenir un bon rythme. Il faudra même ce soir envoyer 2 équipes d'éclaireurs en amont. »«
Bien, mon général. »
Danil, reprit le vieil homme d'un air grave.
Pensez-vous que j'ai été trop présomptueux ?
Le militaire parut surpris que son supérieur lui pose cette question. Dancret était réputé pour être le plus fin stratège d'Harcourt. En quoi la vie d'un petit capitaine pouvait-il l'intéresser ?
Pour prendre Tarnéa, je pense que nous serons assez nombreux. Mais pour la tenir ?
Le général acquiesça.
Vous pensez donc comme moi.
Ils arrivèrent à l'endroit que Dancret avait indiqué et descendirent de cheval. Les cavaliers arrivaient les uns après les autres et se préparaient à installer un bivouac.
« Mais peut-être pourrions-nous reprendre l'armée de Sarre avec nous ?»
suggéra le capitaine Danil.
« On dit qu'ils sont lâches et mal entraînés, mais ils sont tout de même nombreux. Si nous pouvions hériter de l'armée de Sarre, au moins en partie, alors nous aurions assez d'hommes sur place pour tenir Tarnéa. »
S'allier avec l'armée du pays qu'on envahit, c'est fort dangereux. Combien d'entre eux voudront saisir la moindre chance de se venger de nous ?
N'est-ce pas un risque à prendre, mon général ? Tout réside dans notre capacité à nous attirer leur respect.
Alors que nous viendrons de les attaquer, cela risque de ne pas être facile,
remarqua Dancret en attachant son cheval à un arbre.
Peut-être justement devrons-nous trouver une stratégie d'attaque qui forcera leur respect et minimisera les pertes d'un côté comme de l'autre.
Le comte ne m'a pas donné de latitude politique suffisante pour que je puisse négocier quoi que ce soit.
Cela ne nous empêche pas d'essayer de leur prouver nos bonnes intentions. Nous pourrions aussi leur donner envie, tout simplement, d'être du côté des gagnants. Même si nous sommes souvent haïs, les soldats de la flamme bénéficient d'une excellente réputation militaire. Si nous les aidons un peu, les Sarrois seront peut-être contents de rejoindre ce corps prestigieux.
Peut-être, répondit le général. Mais je ne suis pas aussi optimiste que vous. En revanche, j'ai pensé à une autre stratégie.
Laquelle ?
S'enquit Danil, alors que les soldats commençaient déjà à manger autour d'eux.
Les druides ont quitté Saïmina pour rejoindre la reine à Providence.
Pas tous.
Non, mais suffisamment pour que la reine puisse décréter que Providence était le nouveau siège du conseil.
Certes.
Or, si les druides ont quitté Saïmina, qui est proche de la Sarre, et sont partis vers le sud, cela pourrait être ressenti comme une trahison par les gens de Sarre. L'ancien conseil était beaucoup plus proche de leur région. Les Sarrois se rendaient souvent à Saïmina pour demander aux druides de résoudre leurs conflits, par exemple. À présent qu'ils sont à Providence et qu'ils ont rejoint la reine, les Sarrois vont peut-être se sentir abandonnés. D'autant plus qu'ils n'ont pas pour la reine le même respect qu'ils avaient pour les druides.
Sans doute, mon général. Vous pensez donc que nous pourrions les rassurer? Leur dire qu'après le départ et la trahison des druides, nous sommes leurs nouveaux défenseurs?
Quelque chose comme ça. Cela mérite en tout cas d'être réfléchi. N'est-ce pas, capitaine?
Épuisé, Aléa relâcha un peu l'énergie du Saïman. Aussitôt, la lumière diminua autour d'eux. La grotte s'emplit de nouveau d'une obscurité inquiétante. Il n'y avait presque plus une seule torche allumée. Les hommes ralentirent le pas, marchant à tâtons pour ne pas tomber. Les parois de la caverne s'étaient rapprochées. Le couloir devenait plus étroit. Le convoi était sorti de la grande cage d'ossements et marchait à présent à côté de ce qui devait être le haut de la colonne vertébrale du dragon. Mais toujours pas de crâne. La température avait chuté. L'air était de plus en plus humide. Une odeur acide emplissait l'atmosphère. Soudain, un cri perçant déchira l'obscurité de la grotte. Puis ce furent des dizaines de cris et des claquements graves et secs qui résonnèrent entre les parois. La panique s'empara du groupe tout entier. Aléa leva les yeux. En même temps que les autres, elle découvrit dans la pénombre la nuée de créatures qui semblaient tomber du plafond de la caverne, comme une volée d'oiseaux géants. Des chauves-souris démesurées, noirâtres, la gueule longue, les oreilles pointues, des griffes crochues au bout des ailes. L'une des bêtes piqua soudain sur Aléa. La jeune fille poussa un cri d'effroi, se jeta au sol et l'évita de peu. Le souffle des deux grandes ailes battantes avait soulevé ses cheveux. Elle se mit à genoux et essaya de se ressaisir. Tout le monde criait et courait en tous sens, incapable de se défendre contre cette attaque inattendue.
« Retournez sous le squelette !»
hurla Aléa en se levant brusquement. Elle se mit à courir, poussant les autres devant elle pour les aider à avancer, alors qu'elle entendait au-dessus de leur tête des battements d'ailes qui approchaient. Les Tuatanes, armés de leurs piques, se défendaient tant bien que mal contre ces ennemis invisibles qui disparaissaient dans l'obscurité et réapparaissaient soudain, sans prévenir, griffes en avant. Quelques chauves-souris tombaient par moments, transpercées par les coups des guerriers agiles, mais elles étaient si nombreuses qu'on avait l'impression que cela n'y changeait rien. L'attaque redoublait même d'intensité.
« Retournez sous le squelette !»
répétait Aléa en se protégeant la tête. Une nouvelle chauve-souris plongea vers elle et attrapa ses bras. Aléa se débattit, essayant de se débarrasser des griffes crochues qui déchiraient sa chair. Mais plus elle baissait les bras pour se détacher, plus les griffes s'enfonçaient dans sa peau. Dans un sursaut de hargne, elle donna un violent coup vers le haut, un peu au hasard. Elle toucha vraisemblablement la chauve-souris en pleine tête, car celle-ci lâcha prise en piaillant.
« Je dois faire quelque chose !»
Aléa se laissa tomber par terre. Ses bras étaient couverts de sang et sa peau déchirée. La douleur consumait sa chair. Les lèvres pincées, elle se recroquevilla. Elle plongea les mains dans la terre, comme elle l'avait fait si souvent. Ses doigts se crispèrent sur la surface humide du sol. Puis elle eut l'impression de ne plus être vraiment consciente, de ne plus être vraiment là.
« Je dois faire quelque chose !»
Les cris des hommes et ceux des bêtes se mélangeaient dans sa tête. Tout semblait se confondre et s'éloigner. Elle ramena le Saïman à l'intérieur de son corps, concentra l'énergie au plus profond d'elle. Lentement, ses mains s'enfonçaient encore plus loin dans le sol.
« Je suis la fille de la terre. Nous ne sommes qu'une, elle et moi. Je dois trouver la force. »
Le Saïman avait atteint sa puissance maximum et commençait à lui brûler les veines.
« Je suis le passé. »
L'énergie remonta à l'intérieur de son corps, traversant ses organes comme une vague embrasée. Les yeux fermés, elle essayait de contenir encore ce pouvoir prêt à exploser.
« Je suis le dragon !»
Le Saïman se leva dans sa gorge. Aléa se mit debout, d'un seul bond. Et soudain, elle ouvrit la bouche et tendit la tête vers les chauves-souris. Le Saïman se transforma en incendie. De gigantesques langues de feu sortirent de sa gorge. Aléa hurlait et les flammes jaillissaient comme des cris embrasées. Comme un dragon, elle envoyait toute son énergie devant elle pour brûler les créatures qui se mirent enfin à reculer.
Leurs grandes ailes prenaient feu, puis leur corps. Certaines s'enfuyaient en hurlant, d'autres s'écroulaient au sol, où elles finissaient de se consumer en tremblant. Ce fut comme un feu d'artifice terrifiant. Par vagues successives, Aléa continua de cracher de hautes flammes. Les parois de la caverne s'illuminaient à chaque nouvel assaut. Les corps des créatures se déchiraient dans des gerbes incandescentes. Quand elle ne put plus réunir une seule goutte d'énergie, Aléa s'écroula sur le sol et perdit connaissance. Mais les créatures étaient toutes parties depuis longtemps. Les cadavres de chauves-souris s'amoncelaient le long du grand couloir. Et parmi eux, ici et là, on voyait apparaître les corps sans vie de quelques toitanes qui avaient lutté jusqu'au bout. Agéric, le jeune fermier, attendait depuis plusieurs heures, allongé dans les hautes herbes à côté du chasseur de loups. De temps en temps, ils échangeaient quelques paroles, tout bas. Puis ils se taisaient quand l'un des deux entendait le moindre bruit alentour. Mais la plupart du temps, ce n'était qu'un lièvre ou un oiseau. À l'orée d'un bois où l'arpenteur avait repéré la veille une meute, ils avaient amené un jeune mouton, l'avaient égorgé et laissé là, dans l'espoir que l'odeur et le sang attireraient les loups. Ils s'étaient ensuite installés en retrait, aménageant un peu leur affût en faisant une petite butte de terre derrière laquelle ils se cachaient. Mais pour l'instant, aucun loup n'était venu. Vigilants, les deux hommes ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre et espérer. Agéric admirait la patience du chasseur. Comme le temps paraissait long, si loin des travaux de la ferme, mais comme c'était excitant aussi. Agéric n'avait jamais regardé la campagne avec cet œil-là. Il ne l'avait jamais écoutée comme il l'écoutait maintenant. C'était comme s'il la découvrait pour la première fois, lui qui y vivait pourtant tous les jours.
C'est amusant tous ces gens qui disent avoir vu un loup ou même avoir été attaqué. Et quand on essaie d'en attraper un, on peut rester des jours, voire des semaines, sans jamais en voir un seul.
Je dois vous avouer, répondit le jeune fermier en chuchotant, que je n'en ai jamais vu moi-même, à part celui que vous avez amené hier dans l'auberge.
Tu n'en as donc jamais vu de vivant ?
Non.
Tu vas voir. C'est l'animal le plus difficile à chasser. Les vénneries organisées par les louvetiers durent souvent plusieurs jours tant le loup est méfiant. Et il court vite, l'animal. C'est pour ça que je préfère ma façon à moi de chasser. Mais il faut pas le rater. Il faut l'avoir dès le premier coup.
Une seule flèche suffit ? S'étonna le fermier.
Regarde ces flèches, dit l'arpenteur en montrant son carquois au jeune fermier.
Elles sont spéciales ?
Oui, pour le loup, j'utilise toujours ce fer aigu.
Pourquoi ?
Parce qu'il pénètre dans la chair malgré l'épaisseur de la fourrure. Alors que pour un lièvre, j'utilise plutôt des traits qui se terminent par une masse en plomb, pour l'assommer.
Je vois. Et ces flèches-là suffisent à tuer le loup ?
La plupart du temps, oui. Sinon, j'ai une deuxième chance. Regarde.
Dit-il en montrant la pointe d'un de ses projectiles. Le fer avait été trempé dans un liquide poisseux.
« Du poison ?»
demanda Agéric. L'arpenteur acquiesça en souriant. Il avait installé son arc devant lui, à l'horizontale, prêt à tirer. Une flèche était coincée contre la corde. Agéric, lui, n'avait pas pris d'arme. Pour l'instant, il voulait simplement regarder la technique du chasseur et voir si lui-même serait capable de faire la même chose. Soudain, il y eut un mouvement dans la forêt, au-delà de la première ligne d'arbres. L'arpenteur s'aplatit contre le sol. Il fit signe au fermier de ne pas faire de bruit. Puis lentement, il attrapa sa flèche et banda son arc. Quelques feuilles se mirent à bouger. Puis enfin, Agéric aperçut le loup. Sa fourrure brune se fondait si parfaitement dans les teintes automnales des petits bois qu'il ne l'avait pas vu tout de suite. Mais à présent, il admirait la silhouette extraordinaire de l'animal. La queue basse, les oreilles dressées, le museau au ras du sol, il avançait prudemment vers le mouton. De ses magnifiques yeux roux, il cherchait un autre prédateur, le propriétaire de cette dépouille abandonnée. Mais il semblait n'y avoir personne. Il approcha encore un peu, hésitant, craintif. C'était un animal superbe, aux membres longs et aux larges pattes. Sa fourrure épaisse semblait douce et soyeuse.
de taille adulte. Il paraissait fier et fort, et il y avait de grandes chances que ce fût un dominant, à moins que ce ne fût un loup solitaire, ce qui eût expliqué sa présence seule à l'orée du bois. Agéric jeta un coup d'œil vers le chasseur. Il ne bougeait pas. Il devait avoir une force surprenante dans les doigts et les bras, car il tenait son arc bandé depuis un bon moment déjà, et n'avait pas bougé d'un cheveu. De la pointe de la flèche, sans faire de bruit, il suivait l'animal, le visant avec un calme imperturbable. Le loup, prenant confiance, avança vers le mouton. Quand il fut au-dessus, il jeta un dernier regard alentour. Rien ne bougeait. Il renifla l'animal, donna un coup de dent, puis fit un pas en arrière et montra les crocs. Toujours rien. Il s'approcha de nouveau et commença son travail. En poussant de petits grognements, il s'acharnait sur la peau du mouton pour l'arracher. Le tissu se déchira petit à petit et le prédateur put plonger son museau à l'intérieur pour entamer son déjeuner. Le loup était à présent complètement accaparé par son mouton et ne se méfiait plus du monde autour de lui. Mais l'arpenteur attendit encore. Il aurait pu tirer sa flèche dès maintenant. Il aurait sans doute atteint le loup sans problème, mais il préférait que l'animal se gave, qu'il ait l'estomac plein, trop plein pour vouloir courir. Agéric retenait sa respiration. Les bruits de succion et de déchirement que faisait le loup en dévorant la pauvre bête le dégoûtaient quelque peu, et il admirait le calme de l'arpenteur. Enfin, le loup releva la tête. Son pelage était maculé de sang. Il avait complètement perdu sa nervosité. Il lança un regard vers l'ouest, se lécha longuement les babines, puis se mit à marcher pour aller se reposer un peu plus loin. Aussitôt, Agéric entendit le claquement de la corde sur sa droite, le sifflement de la flèche qui fendait l'air. Un seul instant. Le loup eut tout juste le temps de pousser un petit cri et roula sur le côté, comme projeté par la force de la flèche. Elle l'avait atteint en plein flanc. Agéric releva la tête pour regarder le corps immobile de l'animal. La moitié de la flèche dépassait de ses côtes. Soudain, le loup se remit à bouger. Il se leva péniblement, fit quelques pas maladroits, tituba. Il poussait des gémissements plaintifs. Et pourtant, il semblait à Agéric que le loup était résigné. Il ne cherchait même pas d'où la mort était venue. Il n'essayait pas d'arracher la flèche. Il ne hurlait pas à la mort. Simplement, il faisait quelques pas. Et dans ces derniers pas, il y avait une noblesse et une dignité que le jeune fermier ne pourrait jamais oublier. Puis le loup s'écroula lourdement au milieu des herbes.
Aléa Casfad, réveille-toi!
La jeune fille ouvrit lentement les yeux. Il faisait encore sombre, mais elle découvrit le visage d'Erwan, qui tenait une des dernières torches. Le magistel lui souriait. Il se pencha vers elle et déposa un baiser sur sa bouche.
Allons!
Intervint Mjoln, debout derrière lui.
Allons! Sortons d'ici, ça j'y tiens plus. Monsieur Erwan, aidez ma petite lanceuse de cailloux à se lever et hop, ne perdons plus un instant. Là, non, d'instant, plus un seul.
Mjoln était à bout de nerfs. Il était certes inquiet pour son ami, mais il ne supportait plus l'obscurité ni l'étouffement.
Ça va, petite sœur ?
Demanda Tagore en s'approchant à son tour.
Ça ira,
répondit-elle en se frottant le visage. Sa tête lui faisait horriblement mal, mais elle essaya de se lever. L'obscurité ne lui facilitait pas la tâche. Erwan lui prit le bras et l'aida à ne pas perdre l'équilibre. Elle inspira profondément, essayant de reprendre ses esprits, mais ses jambes étaient encore faibles et les blessures sur ses bras la faisaient beaucoup souffrir.
Allons-y,
dit-elle cependant. Elle aussi était pressée de sortir de cette caverne. Et elle devinait que tous ceux qui la suivaient attendaient la même chose, qu'ils fussent Touatan ou soldats de la terre, adultes ou enfants. Ils se mirent donc en route, et Tagore donna l'ordre aux troupes de reprendre la marche. La grotte, de moins en moins grande, résonnait au bruit de leurs pas.
« Combien d'hommes avons-nous perdu ?»
demanda Aléa à Erwan qui marchait avec elle.
« 3 seulement. »«
C'est déjà beaucoup trop, » répliqua la jeune fille. Je n'aurais jamais dû nous faire passer par là.
Nous en aurions perdu beaucoup plus si tu n'étais pas intervenu, affirma Erwan.
Tu n'as rien à te reprocher, et tous ici te sont reconnaissants.
Pour tout avouer, ils sont même très impressionnés. La plupart n'avaient jamais vu la magie des druides, et la tienne est encore plus étonnante.
J'aimerais mieux les impressionner par ma sagesse que par ses prouesses, confia-t-elle en penchant la tête vers le magistel.
En ce qui me concerne, les deux me font beaucoup d'effet, lança-t-il en souriant.
Aléa serra le bras d'Erwan qu'elle tenait contre elle. La présence du jeune homme lui donnait une force qu'elle n'avait pas jadis. Une force optimiste qui l'obligeait à accepter son rôle et à mieux assumer ce qu'elle était obligée d'infliger aux autres.
Quand il était là, elle avait moins peur de ce qu'elle était devenue.
« Tu m'as appelée Aléa Casfad tout à l'heure ?» murmura-t-elle.
« N'est-ce pas ton nom ?» répondit Erwan.
« Si, tu as raison.
C'est mon nom, puisque Félim est mon père.
Tu es la première personne à y penser. »
Soudain, Mjoln poussa un cri d'horreur. Pressé de sortir, il était parti en tête, à côté de Fingin.
« Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Erwan en accélérant le pas.
Fingin et Mjoln s'étaient arrêtés de marcher. Debout l'un à côté de l'autre, ils regardaient le sol devant eux. Aléa et Erwan arrivèrent à leur hauteur. Ils découvrirent alors ce qui avait fait crier le nain. Le crâne du dragon. Un immense crâne, long et plat, à moitié enfoncé dans le sol. De nombreuses protubérances s'alignaient depuis le haut du front jusqu'aux deux orbites.
« Mjoln, ce dragon est mort depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'il puisse nous faire beaucoup de mal. Allons, en route !»
Mjoln fit quelques pas en avant, se baissa vers le crâne, hésita, puis il arracha une dent. Il l'amena près de la torche d'Erwan, poussa un sifflement d'admiration, puis l'enfonça dans une poche. Il fit volte-face et se remit en route. Les autres le suivirent en souriant. Les 500 hommes passèrent en silence à côté du squelette, les uns à la suite des autres. Un jeune Tuatan fit remarquer qu'ils avaient finalement eu de la chance de ne devoir affronter que les immenses chauves-souris plutôt qu'une créature de la sorte. Ils marchèrent ainsi encore longtemps, perdant la notion du temps, épuisés et affamés. La montagne semblait ne jamais vouloir finir. Bientôt, il n'y eut plus qu'une seule torche à l'avant du convoi. Fingin essayait tant bien que mal de répéter ce qu'Aléa avait fait plus tôt, mais il ne parvenait pas à produire autant de lumière. On voyait péniblement. Tout juste pouvait-on deviner la silhouette des deux ou trois personnes devant soi. En tête du groupe, Fingin et Mjoln avançaient prudemment, les mains collées aux parois et les pieds tâtonnants. Et soudain, alors que tous commençaient à perdre espoir, ils aperçurent au loin un rayon de lumière.